Manon Berthier, donc, est doctorante contractuelle en littérature comparée à l'Université Paris-Est Créteil. Elle travaille sur les articulations entre le genre littéraire de la fantasy et le genre en tant que rapport social de sexe, à travers une double approche, une lecture critique des textes, notamment à l'aide de la narratologie féministe, et une analyse des lectures effectives des romans, c'est-à-dire leurs appropriations par le lectorat. Donc, la communication de Manon s'intitule Something Yet Unnamed, où si le lesbianisme mettait côté la puissance narrative d'une Cendrillon sortie du bal de l'hétérosexualité. Alors voilà, donc bon, Manon, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Merci d'abord et surtout aux trois organisatrices de nous permettre de nous réunir cette semaine. Et puis merci également à vous toutes et tous d'être venus échanger avec nous et puis nous écouter. Donc je vais effectivement vous parler aujourd'hui de quelques réécritures lesbiennes de Cendrillon en fantasy, en partant de l'idée reçue encore répandue selon laquelle les contes seraient universels et donc intemporels. Alors en réalité, bien sûr, et comme toute forme littéraire, les contes sont informés par les usages sociaux, les discours politiques et littéraires de leur contexte de production, ainsi que par les intentions de leurs auteurs et autrices, d'autant plus quand celles-ci sont identifiables. Et en retour, ils ont également une influence sur les pratiques sociales ou les conflits culturels de leurs différents contextes de réception. Les textes sont déterminés par les choix qui sont faits par l'auteur ou l'autrice au sein d'une structure donnée, donc la forme du conte par exemple, et ou celle de la fantaisie. Et une fois qu'on a fait ce constat, on peut se demander si, pour remettre en question la charge idéologique du conte ou d'un conte du point de vue du genre, au sens de genre gender, il suffit d'en adapter l'héroïne à notre vision plus ou moins stéréotypée de ce que serait la ou une femme forte. Alors, vous vous rendez compte quand je le présente comme ça que j'oriente fortement la question. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de réfléchir à la façon dont les constructions liées au genre et à la sexualité s'articulent avec ou sont inscrites dans la structure et la forme du récit, parce qu'il me semble que c'est là que peut se jouer une véritable subversion de ces normes. Alors, avant de m'intéresser à Cendrillon et de parler un peu plus précisément du cadre théorique sur lequel je m'appuie, je vais vous demander d'accepter comme présupposé de départ que la structure du récit n'est pas neutre, qu'elle est idéologiquement chargée dans son mouvement, dans sa trajectoire, c'est-à-dire dans la progression chronologique et ou logique du récit, qui est orientée vers une finalité, le dénouement ou la clôture, peu importe comment on veut l'appeler. Et cette structure du récit, elle est également idéologiquement chargée dans ce que quelqu'un comme Marilyn Forwell, une chercheuse états-unienne qui occupe une grande place dans mes réflexions depuis quelques années, dans ce qu'elle appelle donc les catégories de la subjectivité, par exemple celle de narrateur, narrateur, protagoniste, personnage focalisateur, ou justement cette catégorie de la clôture narrative, qui est le lieu ou le moment de la narration où s'alignent finalement toutes les positions de sujet. Dans ce contexte narratif, ce qui va intéresser Farwell, c'est la tension qui peut exister autour de ce qu'elle appelle le sujet lesbien, à la fois au niveau de ce système abstrait de la narration et au niveau de ses manifestations textuelles, c'est-à-dire en gros et pour faire simple, les personnages. Et ce qui permet, selon elle, de penser l'articulation entre ces deux niveaux, c'est ce qu'elle a donc identifié comme catégorie de la subjectivité. Et c'est à cela que je souhaite réfléchir aujourd'hui à partir de trois réécritures lesbiennes de Cendrillon en fantaisie. Alors, on peut s'étonner devant la longévité, la popularité, la vitalité du conte, dont la tradition orale précède pourtant même les antiquités grecques et latines. Pour ce qui concerne Cendrillon, par exemple, on identifie une première version écrite au IXe siècle en Chine, et par la suite des centaines, si ce n'est des milliers de versions à travers le globe. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est l'intersection de deux traditions, celle des auteurs et autrices de fantasy, un genre littéraire qui puise ses sources notamment dans le merveilleux du conte, et celle des écrivaines féministes qui se réapproprient pour les détourner les traditions et les récits fondateurs qu'elles considèrent normatifs. Alors, je précise, notamment en prévision des questions, que je ne suis pas du tout spécialiste du conte de fées ni même de ses réappropriations en fantasy. Je suis arrivée à ce sujet par le biais des approches féministes de la narratologie, en particulier par les enjeux lesbiens de la narration. Mais il me semble que cette forme du conte et ce qu'on en a gardé aujourd'hui sont particulièrement intéressants à cet égard. Alors, le choix de Cendrillon, il s'explique pour deux raisons. La première, c'est que le conte, en tant que forme littéraire située socialement et historiquement, c'est une forme courte, très codifiée, dont des critiques comme Vladimir Propp ou Steve Thompson ont identifié des trames narratives et une articulation entre différents types de personnages qui sont récurrentes, facilement schématisables, identifiables. Donc c'est à ce titre qu'il me paraît particulièrement intéressant et peut-être plus évident que pour d'autres formes littéraires d'en observer les variations. Et la deuxième raison, c'est que Cendrillon est un des récits les plus connus et les plus transmis à travers les lieux et les époques, y compris aujourd'hui, et qu'il me paraît également être assez exemplaire en ce qui concerne l'hétérosexualité. Alors, de façon un peu plus concrète peut-être, que vous ayez lu les contes de Perrault ou des frères Grimm, puisqu'il s'agit des versions les plus célèbres, ou que vous n'ayez que vu l'adaptation de Walt Disney, ou aucune de ces trois options d'ailleurs, tout le monde aujourd'hui est, je crois, en mesure de résumer l'histoire de Cendrillon, si on réduit le récit, à ses composants les plus essentiels. Alors pour cette communication, moi je retiens surtout qu'il s'agit d'une héroïne dont la situation initiale est caractérisée par la perte de sa mère puis de son père, et on remarque que les cendres dont elle tire son surnom sont un symbole du deuil. Elle vit désormais dans une situation de misère matérielle et émotionnelle puisqu'elle sert de servante à sa belle-famille cruelle, des antagonistes féminines, je vais y revenir tout à l'heure, une fée marraine ou en tout cas un adjuvant merveilleux lui permet de rencontrer le prince qui cherche justement à se marier. Et après qu'elle ait dû fuir, et puisqu'il est tombé amoureux d'elle en l'espace de quelques danses, il parvient à la retrouver, généralement grâce à un soulier abandonné, qui permet de la révéler comme l'heureuse élue. Il l'épouse, et elle en est très heureuse, cela pour toujours, nous apprend la formule conclusive caractéristique du conte. Et si l'on réduit encore l'échelle des composants de ce conte, il me semble qu'on peut le résumer ainsi et d'une façon qui n'est, je crois, pas si caricaturale. Une femme est malheureuse, un homme d'une stature supérieure décide de l'épouser, et c'est ce mariage qui va faire disparaître, comme par magie, les problèmes de notre héroïne. Alors, quand on réécrit le conte, on a tendance à mettre à jour les personnages pour qu'ils correspondent à nos représentations, à nos conceptions actuelles, mais généralement sans toucher aux scénarios eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs, d'une certaine façon, ce qui constitue aujourd'hui encore l'attrait du conte de fées, qui est répété, attendu, voire prévisible, et donc réconfortant. Et les rôles genrés de Cendrillon vont être repris et reconduits au fil des réécritures et des adaptations successives, en même temps que la trame et le reste des éléments centraux du récit, sans que l'on interroge nécessairement l'aspect pourtant profondément politique de ces constructions normées ou normatives, à la fois invisibles, attendues et excusées. J'ai choisi trois œuvres très contemporaines de fantasy parce qu'elles me paraissent significatives des possibilités qu'offre le personnage lesbien lorsqu'il pénètre ce cadre très normé du conte de fées. Un recueil de 13 nouvelles, chacune inspirée d'un conte dit traditionnel, intitulé Kissing the Witch, paru en 1997 de l'autrice irlandaise et lesbienne Emma Donoghue, et deux romans jeunes adultes, H de l'autrice lesbienne et sino-américaine Malinda Lo, paru en 2009, et Cinderella is Dead, paru en 2020 de Kalyn Bayron, une autrice queer afro-américaine. Et vous remarquerez qu'on est face à un retournement des attentes du conte dès le titre des ouvrages. Le titre très provocateur de Kalyn Bayron qui nous annonce que Cendrillon est morte, et avec Donoghue, ce personnage de la sorcière qui est a priori le dernier personnage que l'on aurait envie d'embrasser. Et là, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, mais sur la couverture de Malinda Lo, tout en haut, on a écrit que ce n'est pas le conte de fées dont vous vous souvenez. Donc là aussi, une couverture assez évocatrice en termes de subversion annoncée, en tout cas, du conte de fées tel qu'on le connaît. Alors, pour en revenir à ce que j'annonçais tout à l'heure sur la structure des récits, les approches féministes de la narratologie ont identifié parmi les paradigmes qui gouvernent cette organisation du récit une structuration genrée qui oppose et qui hiérarchise de façon binaire le masculin et le féminin. Donc là, les analyses peuvent différer, mais parce que les études de la fantaisie se sont beaucoup intéressées à la nature et à l'expression du désir, par le biais d'approches psychanalytiques notamment, je retiens en particulier l'approche de Teresa de Lauretis, qui identifie deux fonctions ou positions, genrées et liées au désir, un sujet désirant et un objet désiré, ou un protagoniste actif et mobile masculin, globalement le héros et ce qui se rapporte au héros, et un espace liminaire passif féminin, qui doit être traversé, surmonté, dominé, approprié de façon plus ou moins symbolique. Et la résolution de cette tension entre la séparation du masculin et du féminin, ou la séparation des sexes, elle se situe au niveau de la clôture narrative. sous forme de transcendance, là aussi plus ou moins symbolique, qu'il s'agisse de la mort du féminin et du triomphe individuel du masculin, et ou d'un mariage. Et je remarque que le lien entre clôture narrative et mariage n'a bien sûr pas été remarqué que par les féministes. Et par exemple, Vladimir Propp, dans sa célèbre Morphologie du conte en 1928, fait déjà du mariage la dernière des 31 fonctions du conte qu'il identifie, une fonction de fin, c'est-à-dire de but, ou de moyen, mais en tout cas une fonction conclusive qui marque la récompense ou la promotion sociale du héros. Et je me permets de renvoyer aux mémoires de Marion Gingras-Gagné que je donnerai sur la dernière slide du PowerPoint si cette question du mariage vous intéresse. Alors, comment ces enjeux de structure et de temporalité se manifestent dans nos trois œuvres de fantasy? Chez Donoghue, on a une articulation et un enchaînement logique de ces contes sous forme de nouvelles, de façon quasi cyclique ou circulaire, puisque les personnages féminins se rencontrent et se racontent leurs histoires, comme un continuum, comme une interconnexion des récits. Chaque personnage, même mineur, est l'héroïne de sa propre histoire. Chaque narratrice demande à la suivante de se raconter. Et par exemple, le conte qui suit celui de Cendrillon, donc le conte du soulier, c'est le conte de l'oiseau, inspiré de la version de Poussette par Andersen. Et c'est la fée pour qui Cendrillon abandonne le prince qui va raconter sa propre histoire. Cendrillon lui demande « Qui étais-tu avant d'entrer dans ma cuisine ?» donc avant de pénétrer mon propre récit. Et c'est à la fée, ensuite, d'assumer sa propre fonction de narratrice. Chez Byron, on a un jeu très explicite, non seulement avec les contraintes, mais aussi et surtout avec les usages du conte. Cendrillon est une personnalité historique au sein de la diégèse, et une version officielle de son histoire est instrumentalisée par les rois successifs, donc en fait c'est toujours le même roi, pour contrôler le comportement des femmes du royaume depuis sa mort, donc en fait le meurtre de Cendrillon, environ 200 ans auparavant. Et par ce moyen, l'autrice, en fait, elle interroge la convention du « happily ever after », ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, et l'absence de représentation de l'après. Qu'est-ce qui se passe vraiment après le mariage de Cendrillon avec le prince supposé charmant? Et là, en fait, on va apprendre que seul le prince vit littéralement heureux pour toujours, ou en tout cas pour toujours, jusqu'à notre roman et jusqu'à la conclusion du récit. Alors l'intrigue, elle va suivre la perspective de Sophia Grimmins, une jeune femme lesbienne et noire, qui s'échappe du bal annuel et obligatoire lors duquel les jeunes femmes doivent se présenter pour être choisies par leur futur époux. Elle va rencontrer Constance, la descendante d'une des belles-sœurs de Cendrillon, qui souhaite venger les femmes de sa famille et découvrir la vérité derrière l'histoire de Cendrillon qui leur a été présentée comme vraie. On a une remise en cause également de l'idée que l'amour serait la seule voie d'accès au bonheur, puisque la trajectoire narrative est dirigée non pas vers le mariage ou même la rencontre amoureuse, mais vers le renversement par ce duo ou ce couple lesbien du système en place. Il va s'agir de tuer le roi. La clé de ce plan étant la nécessité de retrouver le journal de Cendrillon elle-même pour reconstituer sa véritable histoire. Chez Malin Dalot, donc le roman H, au contraire, il s'agit vraiment d'atteindre le happy end plutôt que de se demander ce qui se passe après, mais un happy end qui est cette fois-ci accordé, dont on offre la possibilité à ce que... Elle parle de jeunes filles queer, mais en l'occurrence de jeunes filles lesbiennes. Alors on part d'une trame narrative assez classique, le décès successif de la mère puis du père, la cruauté de la belle-mère, l'apparition d'un adjuvant merveilleux sous la forme d'une fée, mais cette fois-ci une fée qui est une figure masculine et qui est plus inquiétante parce qu'elle est plus proche des fées du folklore que de la version un peu pailletée de Disney. Le récit est structuré en deux parties, la fée puis la chasseuse, et c'est une organisation qui marque le passage d'une enfance malheureuse qui va pousser H à se réfugier dans les contes de fées préférés de sa défunte mère, des contes par ailleurs résolument hétérosexuels, puis à se réfugier auprès de cette fée qu'elle va rencontrer. Donc passage vers sa décision finale de demeurer finalement dans le monde des mortels en dépit de ses difficultés, le point de bascule étant sa rencontre avec la chasseuse du roi, Kaïssa. Donc une bascule d'un désenchantement progressif par rapport au conte de fées et à la rencontre effective avec une fée, puis un réenchantement du monde humain par le lesbianisme qui va combler en quelque sorte ce besoin qu'avait H jusque-là de s'échapper dans le merveilleux. Alors, même si la finalité, ça reste finalement le Happily Ever After, il est chargé ici d'une signification nouvelle, qui passe notamment par la perte, voire par le rejet du principe d'ascension sociale qui accompagne traditionnellement le mariage. C'est les citations que je vous ai indiquées à l'écran chez Malin Dalot et Emma Donoghue. L'accent est mis sur la maison, home, le chez-soi, mais plus largement un espace à soi et un espace entre femmes. Et on retrouve également la notion d'espace chez Byron, puisqu'il s'agit d'une ouverture de l'espace des possibles qui est permise par le lesbianisme. Comme chez Byron, avec Malinda Law, on est aussi mis face aux conséquences très concrètes du pouvoir des contes, contes de fées, mais aussi métaphoriquement contes de l'hétérosexualité obligatoire, des conséquences qui sont marquées dans la chair des héroïnes, puisque pour être libérée de son marché avec l'homme fée et pouvoir rester dans le monde des humains auprès de sa chasseuse, Ash va devoir lui accorder une nuit. Alors, on a une ellipse, mais c'est très clairement sexuel. Et au réveil, paume de sa main est marquée du cercle de l'anneau qu'il lui avait offert. Je ne développe pas, mais j'ai indiqué en bibliographie, donc sur la dernière slide, toujours un article qui analyse ce motif du marquage par l'anneau. Une autre question qui m'a intéressée à la lecture de ces trois œuvres, c'est le repositionnement des personnages féminins les uns par rapport aux autres. Parce qu'un autre paradigme important identifié par les théoriciennes féministes de la narration, ici Eve Kosofsky-Sedgwick, c'est l'importance des relations masculines pour garantir cette hégémonie du masculin que j'évoquais tout à l'heure. Qu'il s'agisse d'homosocialité, donc des relations entre personnes du même sexe qui ne sont ni amoureuses ni sexuelles, enfin ni romantiques ni sexuelles, ou d'homosexualité, puisque dans les deux cas, ces relations dépendent du positionnement pseudo-hétérosexuel du féminin comme autre, et également de l'empêchement des relations entre femmes. Et la conséquence logique de tout cela, c'est que dans la narration traditionnelle, la lesbienne est, pour reprendre les mots de Marilyn Fry, une impossibilité logique, ce qui est particulièrement marquant avec l'exemple de Cendrillon, puisque l'union hétérosexuelle est littéralement la finalité de ce conte. Un autre point important qui est particulièrement visible dans les adaptations Disney de contes dont le héros est une héroïne, c'est le renforcement de l'opposition entre une beauté jeune, innocente et passive et une antagoniste monstrueuse qui, elle, fait preuve d'agentivité mais qui est présentée comme une figure repoussoir. Chez Donoghue, on n'a pas de cruelle belle-mère antagoniste. Les tâches domestiques qui caractérisent en quelque sorte le personnage de Cendrillon, en fait, elle se les impose elle-même pour faire taire les voix cruelles qui ont envahi son crâne depuis le décès de sa mère. Et en fait, ce n'est pas nommé comme ça, mais très clairement, la nouvelle présente une grande partie des symptômes de la dépression. Donc voilà, suppression de l'antagoniste féminine et également repositionnement des personnages féminins par la fluidité des rapports qu'ils entretiennent, puisque la fée marraine, habituellement l'exemple prototypique de la performance d'un rôle féminin, donc qui aide, qui guide, qui réconforte les héros, elle a ici des flammes dans les yeux et les cheveux grisés, argentés par la cendre. Donc on peut se demander est-ce qu'il s'agit véritablement d'une fée, de Cendrillon elle-même par la référence à la cendre, ou d'une sorcière, puisque tout au long de ce recueil, on a une difficulté à définir, à circonvenir ce personnage central de la sorcière qui est évoqué dès le titre. Chez Byron, on a également un retournement du trope du personnage féminin qui en persécute un autre, puisqu'on apprend qu'en réalité, Cendrillon, sa belle-mère et ses belles-sœurs s'aimaient tendrement et étaient alliés dans leur projet de détrôner puis d'assassiner le roi, donc projet qui échoue. Et c'est ensuite par la réécriture de l'histoire qui est opérée par le vainqueur que la narration de la compétition et de la cruauté entre femmes a été diffusée. Et je vous rappelle que la clé de l'intrigue, c'est le fait de retrouver le journal de Cendrillon, donc l'idée de reconstruire l'histoire à partir de la parole des victimes. Quant à la figure du prince, elle n'est pas éliminée, mais soit elle s'efface en arrière-plan, c'est le cas chez Donoghue et chez Law, soit elle sert de repoussoir en tant qu'agent d'un système patriarcal particulièrement violent. C'est l'exemple du roi, enfin du prince puis roi, chez Byron dans Cinderella is Dead. Le dernier point que je souhaite aborder, et c'est à la fois une conclusion pas tout à fait développée parce que c'est des réflexions encore en cours, c'est la question de la langue du lesbianisme en quelque sorte, c'est-à-dire comment nommer, comment écrire le personnage lesbien. Alors, il n'y a aucune occurrence du terme lesbienne dans aucune des trois œuvres. Chez Malinda Law, il s'agit d'un univers où il est normal d'être homosexuel et donc il n'y a pas de terme spécifique pour désigner l'homosexualité féminine et il n'y a pas non plus de nécessité du coming out. Et à l'inverse, chez Kalyn Byron, la violence du système patriarcal est tellement explicite et présente dans toutes les sphères de la vie des personnages que le lesbianisme est indicible. Il me semble quand même qu'on est face à une sorte de nouvelle grammaire amoureuse. Le lesbianisme est à la fois difficile à nommer et un nouveau langage à part entière. Alors, je ne vais pas avoir le temps de traduire ni détailler les citations que j'ai sélectionnées, mais on note chez Emma Donoghue le jeu de mots autour de spelling, sujet de la fée. Spelling à la fois le fait d'épeler quoi, on ne sait pas vraiment, et le fait d'utiliser un enchantement, le spell. Parce que voilà, il me semble que dans ces trois réécritures, le conte, il n'est pas réécrit comme un seul désenchantement, c'est-à-dire comme une lecture simpliste qui ferait du conte le seul réceptacle et vecteur d'idéologie datée, le complice de la promotion de politiques répressives, mais comme un réenchantement par le lesbianisme. Lesbianisme qui est à la fois le moyen de la transformation de soi, donc ça c'est quelque chose qui revient dans les trois œuvres, mais également de la transformation du monde par l'ouverture de l'espace des possibles, ce qui est particulièrement explicite chez Byron, puisque le roman se conclut sur la transition de l'ancien monde, un royaume patriarcal, vers une forme de démocratie participative qui se veut égalitaire. Donc voilà, je voudrais conclure sur cette idée qu'il me semble que ce n'est pas un simple mécanisme de réécriture qui se joue ici, mais une réappropriation ou un détournement qui prend la forme d'une écriture contre les lois du genre littéraire et du genre social, voire même d'une certaine violence par rapport aux attendus du conte. Une violence qu'on peut observer au niveau de la tension dans le jeu avec les contraintes de cette forme littéraire, donc qu'est-ce qui est repris, qu'est-ce qui est au contraire détourné et comment, et en particulier sur le nœud des catégories de la subjectivité que j'évoquais en introduction. Et une tension également au niveau du discours métalittéraire, parce que même si je n'ai pas du tout pu le développer en 20 minutes, chacun des personnages lesbiens est étonnamment conscient du caractère construit des normes littéraires et des normes du genre. Alors, ça prend la forme d'un didactisme parfois un peu lourd à la lecture chez Caline Byron. Mais par exemple, chez Donoghue, lorsque le prince la demande en mariage, Cendrillon s'enfuit bien en laissant derrière elle un soulier, mais elle ne va pas se laisser rattraper. C'est la citation que je vous ai soulignée à l'écran. Cendrillon s'était trompée dans sa lecture du script social, c'est-à-dire de ses possibilités en tant que femme, et du script littéraire, c'est-à-dire de ce qu'on attend d'une héroïne de conte de fées et de ce qu'on attend de Cendrillon au sein de son propre conte en particulier. Et donc voilà, il me semble que chacune de ces héroïnes, selon des modalités qui se croisent, est repositionnée comme un agent de l'action par ce refus de ne se construire qu'en relation avec le masculin. Et j'espère ne pas avoir trop dépassé.